Bonjour à tous. Un auditeur m'a prêté la trilogie de Lara, une œuvre signée Marie-Bernadette Dupuis et éditée en 2020, disponible en poche. Née en 1952 à Angoulême, elle reste très attachée à sa Charente. C'est en 1985 qu'elle auto-édite son premier roman et les suivants, traitant tous de la royauté. Elle écrit aussi des polars. Et le bouche à oreille l'a fait remarquer par la maison d'édition québécoise JCL, qui l'a fait signer chez elle en 2002. Une petite décennie plus tard, elle rejoint la maison Calman-Lévy. Avec près de 80 ouvrages, Marie-Bernadette Dupuis figure parmi les 10 meilleures ventes de romans français et elle est considérée comme la reine des sagas familiales. La Ronde des soupçons est le premier tome de la trilogie de Lara, jeune bretonne passionnée par l'océan qui borde sa région et qui stoppe ses études à l'automne 46 pour subvenir aux besoins de sa mère, Armeline, et de sa petite sœur, Fantou. Depuis que père et oncle ont été dénoncés à la Gestapo et déportés vers un camp, et sans information sur leur sort ni nouvelles, Armeline ne peut prétendre à la pension de veuvage. C'est donc dans une nouvelle pauvreté qu'elle survive, tant bien que mal. Chacun à sa manière tente d'oublier ces terribles années de guerre, et la vie reprend peu à peu son cours, jusqu'au jour où le corps sans vie d'une jeune fille est retrouvé sur un dolmen. La gorge tranchée, revêtue d'une simple tunique blanche, les élucubrations vont bon train dans la communauté de pêcheurs. Et les soupçons vont rapidement se porter sur l'homme dont Lara est tombée amoureuse, Olivier Hamon. Ce dernier étant déjà accusé d'être à l'origine de la déportation de Louis et Patrick Fleury, père et oncle de Lara. Un coupable bien trouvé pour ces deux affaires dont il n'est en rien responsable. Résistant de la première heure, qui a infiltré la milice bretonne pour déjouer ses vilains plans, Olivier Hamon est obligé de fuir le Finistère pour sauver sa peau. Au grand dam de Lara, qui reste sans nouvelles de sa part. D'ailleurs, elle aussi semble en danger, et pour la mettre en sécurité, l'inspecteur Renan, chargé de l'affaire du meurtre du dolmen, vu comme un sacrifice rituel pour certains, décide de proposer un stratagème à Lara, qui ne l'emballe pas du tout. Elle doit faire croire qu'elle n'est plus avec Olivier Hamon, mais qu'elle convole en toute légèreté avec un autre homme, en la personne de Gildas Sauvignon, tout droit débarqué de Londres après un séjour à l'hôpital à la suite d'une mauvaise tournure de son activité de résistant. Un personnage recommandé par ses nouveaux amis, les Barthes, retraités et bienveillants envers la jeune fille, mais que leur gros chien, Néré, n'aime toujours pas. « Ma chère petite, je n'ai pas osé te le dire tous ces mois, mais le mal rôde, le mal avec une majuscule, des puissances redoutables rôdent autour de toi et d'Olivier. L'inspecteur Renan tient le même discours, Rosen. Vous me faites peur. » Le gros chien se mit à gronder, le poil hérissé. Gildas avait entrebâillé la porte de la cabane. Néré ne s'habituait pas à la présence du jeune homme. Sur la commune d'Erdeven, le mercredi 10 septembre 47. Alan Tevarzek promenait son chien, un petit ratier noir qui gambadait devant lui. Le vieil homme, âgé de 80 ans, savourait la fraîcheur du petit matin. Il était 7 heures. Après des jours de canicule qui lui avaient paru vraiment pénibles à supporter, l'ancien marin retrouvait avec soulagement le vent venu de la mer. Comme il en avait l'habitude, il marchait jusqu'au tumulus de Runersinsen. Depuis qu'il ne naviguait plus, il s'intéressait aux nombreux mégalithes que de très lointains ancêtres avaient dressés sur les landes du Morbihan. « Quand je pense que c'était des chambres funéraires », se souvint-il à voix basse. Le chien aboya tout à coup, figé sur place à 1 mètre du dolmen. Alan Tevarzek le rappela, mais un détail le frappa, une touche de couleur parmi les teintes grises et jaunes du paysage. Il approcha, s'appuyant sur sa canne. Le vieillard, tout tremblant, regarda la jeune fille couchée sous la dalle. Elle paraissait dormir, vêtue d'une longue chemise blanche, pieds nus, mais elle avait la gorge tranchée. Du sang maculait sa chevelure rousse. L'inspecteur Renan observait le corps sans vie de la victime. Les gendarmes l'entouraient, silencieux, sidérés. Le ciel gris pesait sur eux, moins, cependant, que ce nouveau meurtre. Le crime a eu lieu exactement 1 an plus tard, enragea le policier. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, on a égorgé cette malheureuse. Même mode opératoire, même tunique blanche. Le légiste nous dira à coup sûr qu'elle a été droguée, comme Madeleine Le Goff. Qui peut identifier cette jeune fille ? Interrogea l'inspecteur. Moi, je la reconnais, déclara un des gendarmes au bord des larmes. Elle s'appelle Léa. Sous son apparente maîtrise, Nicolas Renan avait l'impression de faire un cauchemar. Il devait pourtant garder la tête froide. Cette fois, on dirait que le criminel n'a pas cherché à bien dissimuler le corps, hasarda Auffray. La route départementale passe tout près, au nord du tumulus. Quelle tragédie, lança ce dernier d'une voix enrouée. Elle était si jolie, on lui a volé sa vie, son avenir. Il se détourna pour ne plus voir le fin visage couleur de cire, les cheveux roux poissés de sang, les pieds nus dépassant de la longue chemise blanche. Un hurlement d'impuissance grondait au creux de sa poitrine, qu'il contenait, par pudeur. Un frisson le traversa, à la perspective d'autres jeunes mortes que nul n'aurait découvertes, ou bien que l'on découvrirait le lendemain, les jours suivants. Le commissaire Urvois arriva au bout d'une heure, salua son supérieur et le médecin légiste d'un air accablé. « Il n'y a aucun doute, commissaire, c'est le même assassin, » dit-il d'un ton ferme. « Il faut absolument le coincer, Renan. Le procureur m'envoie dans ce but. » Le légiste s'était mis au travail aussitôt afin d'établir un premier constat. Il se releva après une dizaine de minutes. « J'en saurai davantage quand j'aurai pratiqué l'autopsie, » dit-il, « mais le décès a dû survenir vers minuit, comme c'était le cas pour Madeleine Le Goff. Sans doute la même arme très effilée, un rasoir. L'expression paisible de la victime prouve qu'elle n'a pas souffert. » On a dû la droguer comme « j'ai compris », trancha le commissaire. « Comme Madeleine Le Goff. Je suppose aussi qu'on ne trouvera aucun indice. » « En effet, » déplora Renan, « les vêtements ont disparu. »« Qu'on emmène le corps à la morgue de Vannes, » ordonna Urvois. « Ça épargnera aux parents de voir ce triste tableau. » Les nerfs à vif, l'inspecteur rétorqua d'un ton amer. « Pendant mon enquête, en septembre dernier, on a voulu me faire croire à un meurtre rituel, à un sacrifice lugubre héritage des pratiques druidiques, mais j'ai la conviction que l'assassin déguise ses crimes volontairement. »« Qu'il les déguise ou non n'est pas le plus important, à mon avis, Renan, » trancha son supérieur. « Il faut comprendre pourquoi il tue de cette manière, comment il choisit ses victimes. Je vais m'y atteler, quelque chose a dû vous échapper. » « La mort, toujours la mort, » déplora Renan. « La mort qui massacre l'amour, toujours. » Il serra les poings pour ne pas hurler de rage et de chagrin. Cette nouvelle victime envenime la situation. Les suspects sont interrogés et le poids de cette affaire va augmenter les drames et les soupçons. La colère monte et le danger aussi. Lara et Olivier doivent quitter les lieux pour protéger leur vie et leur amour. Et cette séparation déchire des cœurs déjà meurtris. Ce premier tome, La Ronde des Soupçons, se termine sur des retrouvailles très attendues pour fêter Noël 47, mais des retrouvailles de courte durée, puisqu'un départ est annoncé aux familles présentes à des milliers de kilomètres de la pointe Finistère.